pas si c'est trop proche, peut-être. Il me semble que je m'entends respirer. Ouais. Je me sens comme un bœuf, là, tu sais, là, qui est là. Ça va bien? Ce matin, on ne va pas continuer dans la série qu'on a commencée il y a quelques mois sur la croix. Vu qu'on fête Noël dans une semaine et demie à peu près, j'aimerais plutôt qu'on regarde un texte qui nous parle de la venue de notre grand roi, comme on l'a chanté ce matin. On va regarder un texte qui nous parle de l'origine du Messie. L'événement qui a changé le monde au complet. Imaginez, le Créateur de l'univers, celui qu'on appelle le grand Je suis, celui qui était servi par les anges dans le ciel, se lève de son trône, enlève son manteau de roi et décide de devenir un homme. Et pas juste un homme, un simple homme et un serviteur. Et pour la première fois dans l'histoire de la création, le divin a rencontré l'humain. Essayez de vous imaginer, comme on dit en anglais, des Almighty, le très grand, le très haut, celui qu'on dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, se retrouve dans un corps d'un homme. Comment on peut imaginer ça? Mais pourtant, c'est ce que Christ a fait. Le grand Je suis est devenu un homme. 100% homme, 100% Dieu. Tout un miracle. Tout un miracle. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble un mot qui n'existe pas dans la Bible. Mais l'histoire est là. L'incarnation. Vous ne trouverez jamais ce mot-là dans la Bible. Comme la Trinité n'est pas là dans la Bible. Le mot n'est pas là, mais la Trinité est là. L'incarnation, l'histoire de Noël, mais la vraie histoire de Noël, pas l'histoire de Noël qu'on nous compte dans les magasins ou à la télé, ou la vraie histoire de Noël. Et je dirais que l'histoire de Noël, l'incarnation, c'est un pilier dans notre salut. Il y a l'incarnation, la crucifixion et la résurrection. Et pourquoi c'est un pilier? Eh bien, si Christ ne s'était jamais incarné en homme, il n'aurait pu jamais venir mourir sur la croix pour nous, puis il n'aurait pu jamais ressusciter. L'incarnation, c'est une des choses les plus importantes dans l'histoire du salut. Puis ce matin, ce que j'aimerais vous présenter, comme je l'ai dit, c'est l'origine du Messie, plutôt que l'histoire de la naissance de Jésus. J'aimerais qu'on tourne dans Matthieu 1, et qu'on puisse lire les 18 premiers chapitres, les 18 premiers versets, excusez. Petite différence. Donc, Matthieu 18, mais c'est pas vrai, Matthieu 1, 1 à 18, excusez-moi. On va l'avoir. Donc, Matthieu 1 à 18 nous dit ceci. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Péret et Zéra. Péret engendra Hezrom, Hezrom engendra Aram, Aram engendra Abinadad, Abinadad engendra Naasson, Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Ozias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation de Babylone, Jéconia engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Akim, Akim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éliézer engendra Matthan, Matthan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Vous allez me dire, qu'est-ce qui va faire un message avec une liste de noms? Bien, la parole de Dieu nous dit que toute la parole de Dieu est inspirée et utile pour enseigner. Et si Dieu, dans sa souveraineté, a permis à Matthieu de mettre une liste de noms, ce n'est pas par hasard. On peut voir beaucoup de choses dans une liste de noms, sur le caractère et sur qui est Dieu. Voyez-vous, Matthieu, avant d'écrire l'histoire de Jésus, il décrit la descendance de Jésus. Pourquoi? Bon, voyez-vous, chacun des évangiles ont été écrits avec un but précis. Luc nous présente l'humanité de Jésus. Il va nous parler souvent du Fils de l'homme. Marc va nous présenter Jésus comme le serviteur souffrant. Jean va nous présenter Jésus comme le Fils de Dieu. Il commence en Jean 1 en disant hein, « Dieu s'est fait chair ». Et Luc va nous présenter Jésus comme le roi. Matthieu, chance ma femme est là. J'ai prêché tellement longtemps dans Matthieu que je suis encore dans Matthieu. Dans Luc. Vous détruirez cet enregistrement-là après. Là. Matthieu veut nous présenter Jésus comme un roi. Et tout bon roi, pour prouver qu'il est un roi, doit prouver qu'il y a du sang royal qui coule dans ses veines. Êtes-vous d'accord? Si tu n'as pas le sang royal, tu n'as pas le droit au trône. Et Matthieu va nous démontrer que Christ a vraiment du sang royal dans ses veines. Christ est vraiment un roi. Donc, ce que j'aimerais faire, j'aimerais regarder le verset 1. Il va nous parler de la généalogie de Jésus-Christ et ensuite sortir trois grandes vérités des 16 prochains versets. Premièrement, Matthieu nous dit « généalogie de Jésus-Christ ». Généalogie, en grec, veut dire « livre des origines ». Le livre des origines par lequel Jésus est devenu un homme. Galates 4:4 nous dit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Donc, l'histoire des origines de Jésus. Et Jésus, en grec, c'est « Joshua ». Yahvé sauve. Et Christ veut dire « le Messie » ou loin de l'Éternel. Donc, Matthieu commence son livre en disant ceci. Voici le livre des origines du Dieu très haut, de loin de l'Éternel qui se fait homme. Et il commence en disant, fils de David. Et la première vérité qu'on veut voir ensemble, c'est que notre Dieu est un Dieu qui est digne de confiance. Pourquoi? Matthieu commence en nous disant, fils de David, et ici il se réfère à l'alliance davidique que Dieu avait dit il y a 1000 ans passés à David. David, un jour, un homme de ta descendance va être un roi et il va s'asseoir sur le trône de David à jamais. Et Matthieu nous dit, le voici. Le voici, le Messie, le fils de David que vous attendez depuis 1000 ans. Le voici. Fils de David. Et Matthieu va garder cette idée-là durant tout le long de son évangile. 8 fois durant l'évangile de Matthieu, le terme fils de David va revenir. Tournez avec moi dans Matthieu 9, 27, je vais vous donner un exemple. Et ça va revenir 8 fois. Pour nous démontrer que Christ est vraiment roi et Christ est vraiment le fils de David promis. Matthieu 9, 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David! » Et 8 fois, ça va revenir. Voyez-vous, Christ a été promis par Dieu. David, un jour, un de tes descendants va venir s'asseoir sur le trône de David à jamais. Et Christ a accompli cette promesse-là. Dieu le dit, Dieu le fait. Mais il n'est pas juste fils de David. Il dit, Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Et Luc réfère encore à une autre alliance, une autre promesse que Dieu a faite à Abraham il y a 2000 ans. Imaginez. Dans Genèse 15, 17, Dieu a dit ceci. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends part d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Et ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Dieu a fait une promesse à Abraham. Et dans cette promesse-là, il lui dit 3 choses. Premièrement, tu vas devenir une grande nation. Deuxièmement, il lui promet la royauté. Et troisièmement, il lui dit, les nations vont être bénies à travers de toi. Et Christ est la bénédiction des nations. L'apôtre Paul nous dit dans Galates 3, l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Christ, en s'incarnant, est devenu le descendant d'Abraham, celui qui apportait la promesse de la bénédiction aux nations. C'est qui les nations? C'est nous. Par la foi, comme Abraham. Dieu a promis à Abraham il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. Les nations vont être bénies à travers de toi, Abraham. Cette bénédiction est venue à travers de Jésus-Christ. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu le fait. Et l'incarnation de Christ nous prouve que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses, un Dieu à qui on peut faire confiance. Dieu l'a dit, Dieu va le faire. L'apôtre Jean nous le confirme que les nations ont été bénies en Jésus-Christ. Apocalypse 5 nous dit ceci. Alors que tous les 24 vieillards, les anges sont autour du trône, tout le monde est là en train de se réjouir. Regardez ce que les anges disent. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu es arraché pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Amen. Et j'ai ajouté ceci. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Parce que Christ est un sauveur et Christ est un roi. Le descendant de David et le descendant d'Abraham. Quand Dieu dit des choses, il les fait. Et l'incarnation nous prouve que Dieu est un Dieu qu'on peut faire confiance. Et il dit en plus à Abraham, ça va être une alliance perpétuelle. Voici des synonymes de perpétuel. Pour la durée des temps, une existence continue qui ne peut pas être brisée, infinie, inviolable. Est-ce que ce n'est pas rassurant pour nous autres? Imaginez-vous si Dieu avait fait une promesse à Abraham, une promesse à David, puis à cause de leur manquement, Dieu change d'idée. où Dieu dit, mon peuple, Israël, vous allez être mon peuple à toujours. Puis en cours de route, Dieu dit, non, j'ai changé d'idée, c'est plus Israël, mon peuple, ça va être l'Église. Ça me fera peur, moi. Dieu, quand il fait des promesses, il les garde. Et c'est pour ça que pour moi, je suis convaincu que le peuple d'Israël est encore le peuple de Dieu. On a été greffé à ce peuple-là par la grâce de Dieu. Mais Dieu a fait une promesse à Abraham et Dieu ne change pas d'idée. Et ça, ça me rassure. Ça me rassure. Notre Dieu est digne de confiance. Et peut-être que ça fait longtemps que tu pries pour tes enfants, pour leur salut, pour qu'ils reviennent. Ou peut-être que tu es malade. Fais confiance au Seigneur. Notre Dieu est un Dieu digne de confiance. Dieu a dit, « Père, mon fils, David, il y a quelqu'un qui va s'asseoir sur le trône à jamais. Abraham, je te promets que les nations vont être bénies à travers de toi. » Et Dieu a tenu promesse. On a un Dieu qu'on peut faire confiance, même si des fois on ne le voit pas, même si des fois on ne le croit pas. L'Ecclésiaste nous dit ceci, « Dieu fait toutes choses belles en son temps. » En son temps. Oui, je te comprends, Linda. Des fois, on aimerait que ça aille plus vite. Hein? Ouais, ben c'est pour ça que le Seigneur dit, hein, un jour, c'est comme 1000 ans pour lui. Ou 1000 ans, c'est comme un jour. Le prophète Ésaïe a intercédé en faveur d'Israël pendant 40 ans. 40 ans prêché dans le désert, puis personne ne t'écoute. Jérémie, il y a une chance qu'elle est là. Le Seigneur a dit dans Genèse 2, hein, je vais faire un aide semblable à toi. Hein? Ouais. Jérémie a dit, après 40 ans d'apprêcher dans le désert, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et laissez-moi vous dire que quand on reste en silence, Dieu répond. Ça peut être dur, mais Dieu le fait. On en a eu un exemple il y a 2 semaines, nous autres. Et je peux vous dire que notre Dieu n'est pas sourd. Ça m'encourage à prier quand Dieu a fait des promesses. Et je sais que Dieu va les tenir. Psaume 50, 15 nous dit ceci, « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu n'est pas menteur. Ce que Dieu promet, Dieu le fait. Christ, dans son incarnation, en est la preuve. Fils de David, fils d'Abraham. Donc, l'incarnation nous prouve que notre roi est digne de confiance. La deuxième chose, notre roi est gracieux. Notre roi est gracieux. Première chose à remarquer, c'est que Matthieu, dans la liste de noms, va nommer 4 femmes. Au temps du Seigneur Jésus, les femmes étaient vues comme des outils, ou au mieux, comme des citoyens de deuxième classe. Jamais, jamais, dans une généalogie, on ne nommait une femme. Dans sa grâce, le Seigneur permet que Matthieu en nomme 4. En plus, sur les 4, au moins 3 sont des païennes. En plus, ce sont tous des femmes non respectables, selon nos yeux. Gardez au verset 3. Matthieu dit, « Judas engendra de Tamar. » Si vous voulez l'histoire de Tamar, allez lire Genèse 38. Tamar, pour se venger, s'est aiguisée en prostituée et elle a commis l'inceste avec son beau-père pour avoir un enfant de lui. Pourtant, et dans la généalogie du Seigneur Jésus. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Qui est Rahab? Rahab, c'est la prostituée qui a caché les espions quand on a voulu rentrer dans Canaan. Une prostituée dans la descendance de Christ. Une femme païenne prostituée. Verset 5. Boaz engendra Obed de Ruth. Qui est Ruth? C'est une Moabite. C'est une païenne, puis c'est une Moabite. Et regardez ce que Dieu avait dit du pays des Moabites. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'Assemblée de l'Éternel, pas même à la dixième génération et à perpétuité. Ils rentreront jamais dans la génération de Dieu. Pourtant, qui est là? Est-ce qu'on a un Dieu de grâce? Et la dernière, au verset 6. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. On n'utilise même pas son nom. La femme d'Uri, Bathsheba. Celle qui a commis l'adultère avec David. Pourtant, son nom est là. Wow! Inceste, prostitution, immoralité sexuelle, peuple maudit de l'Éternel pour finir adultère. C'est ce que Dieu a utilisé pour faire entrer son fils dans notre monde. David Platt, dans son commentaire sur Matthieu, a dit ceci. Drôle de manière d'introduire le Sauveur dans le monde. On aurait cru que Matthieu aurait pu choisir d'autres femmes pour les inclure dans cette liste. Mais pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Notre roi est un Dieu de grâce. En plus, Marie, la mère de Jésus, à première vue, elle semble être une mère porteuse, pas mariée. Et on faisait quoi avec ces femmes-là dans le temps? On les lapidait. Matthieu va nous rappeler que dans deux semaines, le roi qu'on va fêter, c'est un roi de grâce, un roi gracieux. C'est pour ça que le nom de ces femmes-là sont là. Mais en plus, on a parlé d'Abraham tantôt. Abraham, par deux fois, a menti parce qu'il avait peur des rois. Il a dit, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Donc, Abraham, c'est un menteur. Pourtant, il est dans la liste. David, dans l'affaire de Bathsheba, il a commis l'adultère et il a fait tuer l'homme probablement qui était le plus juste dans son royaume. Un adultère, un menteur, un meurtrier, pourtant, il est dans la liste. Même dans la lignée royale de Christ, même dans les rois, ce n'était pas tous des anges. Il y a même des rois dans la descendance de Christ, ses arrière-grands-pères, qui haïssaient l'Éternel. Laissez-moi vous donner deux exemples. Regardez au verset 9. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz, son histoire se retrouve dans 2 Rois 16. Et voici ce que la Bible a à dire concernant Akaz, un des arrière-arrière-arrière-grands-pères de Christ. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, contrairement à son ancêtre David. Il marcha dans la voie des rois d'Israël. Il fit même passer son fils par le feu. Ça veut dire qu'il a brûlé sur un autel. Conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites, il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux et sur les collines. Et au verset 10, on parle de Manassé. Ézéchias engendra Manassé, un autre roi de la lignée de Christ. Regardez encore là ce que la Bible a à dire concernant Manassé. 2 Rois 21. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant Israël. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait détruits. Son père les détruit, il passe en arrière et il rebâtit. Il érigea des autels en honneur de Baal et un poteau sacré, comme l'avait fait le roi d'Israël, Achab. Il se prosternait devant tous les corps célestes et les servit. Hein? Il se prosternait devant la lune et les étoiles. Il construisit des étoiles en l'honneur de tous les corps célestes dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il y fit passer son fils par le feu. Il pratiqua la divination, l'occultisme. Il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue d'Astarté qu'il avait fabriquée dans le temple. Il a même pris une statue et il a rentré dans le temple à Jérusalem. Mais pas juste ça. Les Israélites n'écoutèrent pas et menaçaient les égorants à un tel point qu'ils firent plus mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant eux. Ils sont devenus plus pires que les gens avaient chassés pour le donner Canaan à cause de menacer. Est-ce qu'on a un Dieu de grâce? Parce que le nom de Manassé, il est là. Pourtant, il haïssait l'Éternel. Menteur, voleur, meurtrier, idolâtre, adultère, rebelle à la parole de Dieu. Pourtant, chacun, le nom est là. Qui était mieux placé pour écrire cette liste de noms-là que Matthieu? Qu'est-ce que Matthieu était? Un collecteur d'impôts. C'était la pire job en Israël. Tu étais vu comme un voleur, comme un menteur. Tu extorquais les gens, tu leur demandais plus d'impôts. C'était la pire job que tu pouvais avoir. Quand Matthieu parlait des menteurs, des voleurs et des idolâtres, il savait de quoi il parlait. Puis il connaissait la grâce de Dieu. Quand Jésus le sauve, il fait un party. Et regardez qui sont les seules personnes qui veulent aller chez eux. Matthieu 9, versets 9 à 12. Matthieu comprenait très bien la liste de noms qui est écrite. Matthieu dit ceci. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau de péage qui s'appelait Matthieu. Et il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans sa maison, voici beaucoup de docteurs, d'avocats, de notaires. Non, hein? Qui est invité? Beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus les a entendus leur dire, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Et c'est pour ça que je suis venu. » Un Dieu de grâce. L'incarnation nous démontre combien Christ est un Dieu de grâce. Gracieux. Et si tu es uni à Christ ce matin, c'est pas parce que tu es plus beau, plus fin, puis plus intelligent que les autres. Je ne veux pas décevoir personne, mais c'est pas ça. C'est pas pour ça. C'est à cause de la grâce, la bonté et la patience de Dieu. Exactement comme chacun de ces hommes et ces femmes qui sont mentionnés dans la liste de noms que Dieu utilisait pour sa descendance. Et c'est encourageant pour nous encore ce matin. Parce que malgré nos manquements, malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, Dieu nous a aimés au point de donner ce qu'il y avait plus cher dans le ciel. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, et j'aime me rappeler ce verset-là, parce que ça me rappelle combien Dieu est un Dieu de grâce. Dieu a choisi les choses folles du monde folle du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qui ont méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Dieu n'a pas été dans les châteaux choisir ses enfants. Il est allé à Dompe. Des choses folles, viles, et faible du monde. Et la preuve, regardez les noms. Qui Dieu a utilisé? Les pires. On a un Dieu de grâce. Donc, on a un Dieu qui est digne de confiance, un Dieu de grâce. Et la troisième chose, c'est le roi du peuple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais voyez-vous, normalement, quand un roi naît, il naît en grande pompe dans un château. Pensez au prince William et à Kate Middleton quand ils ont eu leur enfant. Les paparazzis partout. Pourtant, Christ est né dans une étable. Il n'était pas roi. Il était le roi. Il était le roi des rois. Pourtant, il est dans un étable. Il était tellement beau qu'Isaïe 53 nous dit ceci. Il s'est élevé devant nous comme une plante, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Christ n'est pas venu en flashant hein, comme un rouet. Bien le contraire. Il est né à côté d'un bœuf puis d'une brebis. Puis trois ou quatre bergers pour aller voir qui il était. C'est pour ça que Christ n'a pas peur de se mêler aux gens non respectables, les faibles. Et dans cette généalogie-là, pourquoi je dis le Dieu du peuple? Abraham, ce n'est pas un roi, c'est un berger. Boaz, un fermier. David, un berger, puis un musicien, puis un poète. Et oui, aussi un roi. Plusieurs des rois qui sont mentionnés dans cette liste-là, à cause de la déportation à Babylone, sont devenus des eunuques qui ont servi à Babylone comme des serviteurs du roi. Joseph, le père de Christ, était quoi? Un charpentier. Denis n'aime pas mon message, correct. Christ est né dans une étable, a vécu dans une famille pauvre en plus. Et comment on sait que Christ a vécu dans une famille pauvre? Donc moi dans Luc 2. Christ aurait pu choisir de vivre dans une famille riche. Luc 2, 22 nous dit ceci. Et quand les jours de la purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir au sacrifice deux tourterelles ou deux pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc, pour la purification, Marie arrive avec deux tourterelles. Pourtant, c'est pas ça que la loi enseigne. Voici ce que la loi enseigne dans Lévitique 12. Lorsque les jours de ses purifications seront accomplis, pour un fils ou une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'un an pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, parce qu'elle est trop pauvre, elle peut venir avec deux tourterelles ou deux pigeons. Avec quoi Marie est arrivée? Deux tourterelles. Il était trop pauvre pour amener un agneau. Et c'est là que Christ a vécu. Le roi du peuple. Durant son ministère terrestre, Christ était un roi. Pourtant, il a prêché son premier sermon dans un bateau emprunté. Christ est invité chez les gens pour manger et dormir parce qu'il n'y avait même pas de maison. Il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il a pris son dernier repas de Pâques avec ses disciples dans la chambre haute qu'il avait empruntée à quelqu'un. Sa salle de conférence, son lieu de repos, le jardin de Gethsémané. L'entrée à Jérusalem, le grand roi, il rentre sur le dos d'un âne, emprunté. C'était même pas lui. Il n'a pas rentré en pep mobile avec des vitres blindées. Il est rentré sur le dos d'un âne, emprunté. Le roi des rois. C'est pour ça que je vous dis que c'est le roi du peuple. Le roi qu'on va fêter la semaine prochaine, c'est un roi absolument, c'est le roi des rois. Mais c'est aussi le roi serviteur, comme on chante. Le roi serviteur. Pour conclure, j'aimerais juste vous lire ce que David Platt a dit concernant Christ. Il dit ceci. Tu n'es pas le centre de l'histoire, et moi non plus. Notre génération ni notre nation sont au centre de l'histoire. Au cours de l'histoire, des milliards de personnes sont venues, sont reparties. Des empires, des pays, des nations, des rois, des présidents, des dictateurs ont apparu et ont ensuite disparu. Au centre de notre histoire se tient une personne, Jésus, le Christ, le roi. Voici la revendication de Matthieu. Et il continue. Si c'est Jésus le roi de l'histoire de notre monde, ça veut donc dire qu'il va être le roi de ta vie. Quand tu réalises sa loi et que tu te soumets à son règne, tout change dans ta vie. Absolument tout. Et la question ce matin, c'est on va répondre comment au fait que Christ est roi, et le roi des rois, un roi digne de confiance. On peut faire confiance à Christ. Un roi qui tient ses promesses, un roi de grâce et le roi du peuple. Mais ce matin, tu as trois choix. Exactement comme les gens qui étaient autour de Jésus durant son ministère. Premièrement, ce matin, tu peux être un pharisien. Nier que Christ, c'est le Fils de Dieu, t'en fouter, continuer à faire ta vie exactement comme avant. Ou tu peux être comme la foule, un des religieux. Continue avec Jésus tant qu'il va te donner ce que tu veux avoir, puis tant que c'est pour ton intérêt. Et malheureusement, en 2020, nos églises sont pleines de ça. La foule. Des gens qui marchent avec Jésus tant qu'ils ne lui demandent rien. Et tant qu'ils lui demandent quelque chose, par exemple, on fait comme la foule. Ça coûte trop cher. On arrête de le suivre. On arrête de le servir. Christ a dit, tu veux que je sois ton roi? Prends ta croix, viens et suis-moi. Il y a un coût à payer pour que Christ soit notre roi. Ce n'est pas gratuit. Le salut est gratuit. Mais Jésus dit, si tu veux me suivre, tu sois mon roi, il faut que tu sois prêt à tout donner. Tout. Ou tu es un des disciples, un petit groupe. La minorité qui ont vraiment reconnu que Christ était roi. Le roi. Et qui ont pris la décision de suivre Christ malgré que ça leur coûterait leur vie. Et vous direz que la chrétienté devient de plus en plus faible autour de nous. Est-ce qu'il était prêt à dire ceci? Christ, tu es mon roi. Et parce que tu es mon roi, il n'y a pas de condition pour mon obéissance envers toi. Je vais te suivre ou tu vas me demander d'aller? Je suis prêt à abandonner tout ce que j'ai, tout ce que je suis, parce que tu es roi, tu es roi au-dessus de ma vie, puis je veux te suivre. coûte cher. Mais il y a une belle promesse, par exemple, qui se rattache à ça. Christ a dit ceci. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vécu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, je te repose la question ce matin. Qui t'es dans la foule? Le pharisien? La foule? Ou le vrai disciple? Et qui est Jésus pour toi ce matin va faire toute la différence à ce Noël? On a un grand roi. Et Matthieu veut nous dire, notre Dieu tient ses promesses. Notre Dieu est gracieux. Et notre Dieu, c'est le Dieu du peuple. Il n'est pas haut dans sa tour d'ivoire. C'est pour ça que Jésus peut nous comprendre. Quand ça fait mal, là, il sait. Il a vécu dans une famille pauvre. Il a vécu le pleur, la peur. Qui est Christ pour toi ce matin? Juste quelqu'un d'autre ou un grand roi? Ce que j'aimerais vous partager, puis Dieu voulant, mais le mois prochain, on va revenir avec la série sur la croix et on va regarder ensemble. Jésus nous sauve de quoi? De quoi Jésus veut nous sauver? Je vais juste prier pour terminer. Père, merci pour ta parole qui est inspirée. Et Matthieu, Seigneur, en écrivant cette liste de noms, ne l'a pas faite par hasard. Matthieu voulait nous démontrer que le Messie était bel et bien un roi, le roi, descendant de David, selon la promesse, descendant d'Abraham, selon la promesse. Ah, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci d'avoir inspiré Matthieu, d'avoir mis le nom de ces femmes, Seigneur, des femmes non respectables. Mais on n'est pas respectables chacun. Chacun de nous, on est taché par le péché, on n'est pas différent. Mais merci parce que tu t'es incarné dans un but. Mourir. Et Seigneur, qu'à ce Noël, on puisse se rappeler combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es gracieux. Merci pour ce chien qui nous dit, ouais, roi serviteur. Aucun roi avant n'avait accepté de s'abaisser où tu es allé. Mais encore moins le roi qui est Dieu. Ah, Seigneur, merci pour cette grâce infinie. Et qu'on puisse se rappeler à Noël, Seigneur, qui tu es et ce que tu as fait, jusqu'où tu es allé. À toi seule la gloire, Seigneur. Amen.